Radio Foot International.
Olivier Prompt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International avec son Laurent Salerno bien frais, son David Finzel qui lui l'est un peu moins et son programme du lundi toujours chargé direction l'Afrique pour commencer avec cette finale retour de Ligue des Champions, rang, vert, centre, remontée historique de l'Espérance de Tunis titré pour la troisième fois avec à sa tête le plus jeune entraîneur qui n'ait jamais soulevé le trophée, Mouine Chabani, 37 ans, déconfiture totale en revanche pour le Al Ahly de Patrice Carteron passé en 90 minutes pour les Kérottes, de héros potentiels à zéro abouti, la peu glorieuse ingratitude du football. Et quand on parle de coupes africaines, on appelle qui ici? Bah Penaud, Hervé Penaud, enfin on en a deux trois autres mais ils étaient pas dispo. Bonjour Hervé.
Bonjour à vous, quel plaisir d'être en votre compagnie.
Bon alors, après l'Afrique, l'Angleterre, carrément, on ne lésine pas. Et comme il a fait travailler le réfé hier, renvoi d'ascenseur aujourd'hui, Salim Bongali est ici.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
Et on note que quand il vient avec madame, il est 10 minutes en avance. Donc ça c'est bien. Il est question de parler de Manchester City et de Pep Guardiola qui ont donné la leçon hier aux Mourinho Boys de United. Les Citizens lancés dans la course à leur propre succession avec Liverpool, voire Chelsea et Tottenham à leur basque, enfin on l'espère, rapport au suspense et donc à l'intérêt de ce championnat. Ensuite, mais pas de Ligue 1, trop pathétique, pas de Liga non plus, ni de Copa Libertadores. Pour tout ça, faudra revenir demain, mesdames, messieurs, c'est promis. Non, après l'Angleterre, direction l'Allemagne, où s'est joué samedi un emballant, un passionnant, un renversant aussi Dortmund-Bayern Munich. Et en leader, ce sont les hommes de Lucien Favre, qui ont mis à 7 longueurs désormais les Bavarois, 5e, car Mönchengladbach, Leipzig et Francfort, tous vainqueurs, sont passés devant. Étonnante Bundesliga que nous analyserons avec David L'Hortelari au téléphone, et puis parce qu'il est en train d'apprendre le métier, je suis certain qu'Habib, Bey Habib, aura plus qu'un avis sur le travail décidément très efficace de Lucien Favre.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
C'est un beau modèle Lucien Favre.
C'est un beau modèle.
Ça. Bon ben voilà, allez, coucou la dame, et on y va.
Atiye Badri, entre bien Badri, Allah da Boutalib, خلص كمان انت كبير يا ابن الخضراء كمان انت كبير يا ابن الخضراء.
C'est une grande fête pour le peuple tunisien.
C'était pas du joueur, c'était des vainqueurs, des gladiateurs sur terrain. Félicitations pour l'espérance.
C'était génial, on a 11 lions.
Nous sommes très heureux, très contents.
On a gagné, on va toujours gagner. Il ne gagnera plus l'Égyptien.
C'était vendredi, vous l'aurez remarqué, le commentateur a manifestement quelque chose qui passait pas. Ça s'entend très bien. C'était un truc de gueudin, hein, véritablement, à Tunis, où l'Espérance a inversé la tendance et remporté sa troisième Ligue des Champions en 7 finales. 3-1 à l'aller pour Al Ahly, 3-0 au retour pour l'Espérance, grâce à un doublé de Saad Gir. On va le dire comme ça.
Gear, ouais.
Ouais, hein, ça vous va. Et une dernière réalisation, on vient de l'entendre. C'était ça, juste avant le commentateur. Danis Badri, en fin de match. Les 100 et or vont fêter leur centenaire en janvier. Bah, de la plus belle des manières. C'est vrai que c'était une belle finale. Que ce soit aller ou retour. À l'aller, on avait les polémiques. Au retour, ça n'a pas fait un pli.
Et une retour, une grosse surprise. Une grosse surprise, parce qu'on s'attendait quand même pas à voir Ali craquer de cette manière-là. Il frappe une fois au but de tout le match. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas existé. Alors, on avait peur surtout de ce qui allait se passer autour du match, pour être honnête. Et je pense que le fait d'en avoir beaucoup parlé, ça a permis que rien ne se passe. Il n'y a pas eu d'incident.
4 blessés, tout. Je crois, après le match, hein, oui. dans la liesse populaire qu'autre chose.
Exactement. Donc, il n'y a pas eu d'incident, alors qu'on savait avant qu'il pouvait y avoir d'énormes problèmes, hein. Il y avait vraiment des gros risques. Et puis, on avait l'impression qu'Al Ahly semblait supérieur et devrait réussir à gagner ce trophée-là. Il s'était imposé, rappelons-nous, déjà lors de la finale 2012 à l'extérieur. Là, il s'était imposé aussi en poule là-bas et ils ont explosé. Mais c'est un truc inimaginable. Et puis, il y a ce but de dernière minute.
87e.
Hein, qui permet de renverser complètement la tendance. C'était qu'ils avaient gagné le match.
Oui, mais enfin, s'il y avait un but
de l'autre côté. On ne sait jamais ce qui pouvait se passer. Un magnifique but d'un type qui a été formé d'ailleurs en France, qui a été formé à l'OL, qui avait arrêté plus ou moins le football à 16-18 ans et qui est remonté comme
ça. Qui a joué à Moucron,
qui a joué à Saint-Priest, qui était revenu par Saint-Priest, un petit club français de national.
Et au final, 8 buts hein, cette saison, c'est le meilleur buteur de la compétition.
C'est le héros de la Ligue des Champions africaine cette année, c'est le meilleur buteur. Vraiment, c'est complètement inattendu. Un jeune entraîneur. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entraîneurs locaux hein, qui gagnent. C'est beaucoup d'entraîneurs locaux qui ont gagné les Ligue des Champions depuis les années, sauf Carteron.
Dernière saison, à part Patrice Carteron et Kotepe Mazembe.
Franchement, bravo à l'Espérance. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Un grand match.
C'est vrai qu'on parle de surprise à juste titre, Hervé a raison. Encore plus après donc le match aller, on a évoqué ces fameuses polémiques arbitrales, évidemment le coup du VAR qui aurait pu faire deux choses. Soit d'un côté totalement démotivé au final les joueurs de l'Espérance, parce que vous pouvez vous dire ah bon sang, on prépare le match comme il faut, on essaie de faire au mieux et malgré tout tout est contre nous. Le complot, vous savez, lorsque vous êtes joueur que vous perdez à un moment donné, vous pouvez vous dire il y a un complot qui est contre nous, c'est mort, c'est fini, donc vous êtes totalement démotivé. Ou au contraire, ça vous surmotive et vous dites bon sang, ils veulent nous faire du mal, ils veulent nous causer du tort, ben on va le faire, on va quand même réussir à jouer et à faire ce qu'il faut. C'est ça, c'est sur cette corde peut-être sensible, je sais pas, que l'entraîneur a pu jouer, parce que Hervé l'a dit quand même, juste une frappe pour Al-Ahly, c'est juste invraisemblable, c'est quasiment du jamais vu dans une rencontre pour Al-Ahly de voir une telle équipe aussi dominée, c'est jamais vu, tout simplement.
Est-ce que finalement c'est une telle surprise? Oui, c'est une surprise, le match aller avait été tellement, comment dire, vicié, enfin en tout cas, mal embarqué. Al-Ahly aurait sans doute, avec un arbitrage plus cohérent, on n'aurait sans doute pas gagné 3-1 à domicile.
Oui, mais c'est ce qui les a construits, je pense. C'est surtout, ils se sont construits dans cet échec, déjà dans un premier temps, les Tunisiens.
Les Tunisiens.
Et puis ils se sont construits aussi dans cette injustice, parce que c'est clairement une injustice, le match aller. On se rappelle de ce deuxième pénalty qui est inexistant. Et je pense que on l'avait dit d'ailleurs dans l'émission, comment pouvait justement l'Espérance de Tunis se relever d'un tel événement? Et ben c'est justement oublier ce qui s'est passé à l'aller, se dire qu'à l'aller, s'il n'y a pas justement ce penalty, ils ne perdent pas 3-1, donc il n'y avait pas non plus un écart énorme entre ces deux équipes. Après, c'est l'expérience d'Al-Ahly en Ligue des Champions qui pouvait faire penser qu'ils allaient gérer ce match retour. On se rend compte que même à 2-0, alors que l'Espérance est déjà vainqueur de ce match, Al-Ahly n'a pas poussé, n'a pas essayé d'aller marquer ce but qui aurait permis aussi à ces Égyptiens d'être sacrés. Et ce troisième but vient à point nommé, puisque dans les dernières minutes, je pense que c'est bien aussi d'avoir des histoires dans le football comme celle-ci, parce que Al-Ahly a gagné énormément de trophées.
Voir l'Espérance, 8-1,
c'est énorme, et de voir comme ça une forme de remontada. Aujourd'hui c'est le mot à la mode pour lorsqu'il y a des retournements de situation, ça amène un peu de fraîcheur aussi, peut-être un petit peu de changement. Et je trouve que par rapport à l'histoire du match aller, c'est une belle histoire pour l'Espérance de Tunis.
Mais eux ont pas su gérer leur match aller. Je pense que, alors je sais pas ce qui s'est passé exactement en interne, mais ils auraient dû avoir une sorte de sécurité. Alors l'absence d'Azaro a peut-être fait mal au final, parce que il a été suspendu pour le match. On sait que c'était quand même leur buteur, c'est celui qui s'était déchiré le maillot et qui avait
donc absence tout à fait logique, pourrait même prendre 10 matchs qu'il les mériterait.
Absolument, tout à fait logique.
Avec une certaine passivité voire complicité de Patrice Carteron, qui sur ce coup-là est pas super.
Un entraîneur qui le voit pas, ça arrive, évidemment.
Ouais, donc comme la caméra n'avait pas assez élargi, je me suis pas bien rendu compte. C'est vrai qu'il était sur le bord de touche, mais lui,
je l'ai lu.
Loin.
Voilà. On va reparler de Patrice Carteron.
Mais toujours est-il que, pour lui, alors là, c'est déjà chaud.
c'est incroyable. Alors, on va d'abord parler de Patrice Carteron. On reviendra sur le jeune entraîneur de l'Espérance. Mais c'est vrai que Patrice Carteron, il est arrivé. Al-Ahly allait plutôt mal, très mal.
Oui,
et puis,
sûr,
il a enchaîné, je sais pas, 15-16 matchs sans défaite, sans une défaite. Il a emmené cette équipe en finale. Il pouvait devenir l'entraîneur français qui allait devenir une deuxième fois champion d'Afrique avec un deuxième club différent. L'histoire était magnifique. Et puis dans ce football circus d'aujourd'hui, en 90 minutes, vous passez de tout en haut à tout en bas, parce que sur les différentes réactions qu'on a pu entendre hier dans Mondial Sport, Frédéric Nkena, notre correspondant au Caire, a fait un micro-trottoir. Il est bon à jeter aux orties, quoi. Vraiment, on lui impute totalement cette défaite.
Le problème, nous parlons de l'Égypte, nous parlons d'un pays qui est passionné par le foot,
qui est football
plus, et qui aime à un point ce foot-là. L'échec, malheureusement, est mal vécu. On oublie à chaque fois les 8 titres. Vous l'avez dit, Al-Ahly est le club qui a le plus remporté.
Mais perd sa deuxième finale de suite.
Exactement. Carteron a peut-être réalisé l'exploit mythique avec le TP Mazembe. Ça, c'est oublié. Au final, le supporter se dit tout simplement, c'est qui Carteron? C'est à cause de lui si on a perdu. Faut le dégager. C'est terrible de penser ainsi. J'ai un joueur en face de moi. Il
pour
a connu ces périodes-là. Quel
joueur
qui a connu ces périodes-là. Enfin, c'est terrible, mais le premier qu'on pointe toujours, c'est pas forcément les joueurs, quoique aussi.
Le premier fusible, c'est
toujours l'entraîneur, c'est comme ça.
C'est toujours
plus facile
le premier
quand même
fusible,
de virer l'entraîneur plutôt que de virer
bien sûr. Et puis, lorsqu'on est à l'Ali, on n'est pas habitué à perdre. Même si c'est le cas depuis 2 ans, on n'est pas habitué à perdre parce qu'on a d'habitude tout gagné. C'est la problématique. Alors, il a été le héros du match aller en quelque sorte, et puis il est le héros malheureux parce qu'il sera jeté en pâture parce que son équipe n'a pas gagné le trophée. Mais ça, c'est le rôle de tous les entraîneurs. Il avait déjà gagné avec le TP Mazembe, il était parti sur un sacre. Là, aujourd'hui, on verra s'il peut continuer son aventure, mais c'est très difficile avec l'Égypte parce qu'il y a énormément de pression, il ne faut pas l'oublier, la pression populaire est énorme sur ce club-là. Est-ce qu'il résistera à ça? Je ne sais pas.
Alors la victoire de l'Espérance, on rappelle quand même quelques chiffres, 16 matchs, 9 victoires, 4 nuls, 26 buts marqués, 12 encaissés, c'est un parcours quand même assez incroyable. On notera 9 victoires, 4 nuls, 3 défaites, et ce qui est étonnant sur les 3 défaites, il y en a 2 contre le National du Caire, contre Al Ahly, mais ils ont gagné celle qu'il fallait gagner, ils perdent en poule contre eux, ils perdent le match aller, on l'a dit, et ils ont gagné, ça faisait 10 matchs qu'ils n'arrivaient pas à battre Al Ahly, l'Espérance de Tunis.
D'où la pression populaire. C'est-à-dire que c'est un truc qui n'a pas été accepté, pas été admis. D'autant plus qu'en championnat, ça marche un petit peu moins bien qu'à une certaine époque. Donc, c'est vrai que les gens pouvaient pas accepter. Et puis, les incidents du match aller ont fait qu'à un moment, il y avait une sorte de sentiment national. Et puis, on connaît les problèmes que peuvent avoir les Égyptiens envers les pays du Maghreb. Donc, déjà, perdre contre Wydad une fois, maintenant, vous ajoutez contre un club tunisien, pas évident à accepter de la part des supporters là-bas.
Oui, les Égyptiens ont tendance à se croire un petit peu supérieurs à leurs voisins du Maghreb, notamment en termes d'arabe, de la manière de parler, l'impression de parler l'arabe le plus traditionnel par rapport aux autres. C'est ce qui se dit, mon cher Hervé. Revenons sur cet entraîneur, le plus jeune entraîneur titré, Mouine Chabani, 37 ans, il a été appointé il y a un mois après. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, c'est peut-être pas lui qui a fait le boulot, n'empêche que un mois après, le voilà titré, je vous propose de l'écouter, on parle un peu de lui après.
Je pense qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel, on a bien mérité cette coupe, avec cette grande émotion, après le match aller. Bon, je crois que les joueurs ils étaient bien appliqués, et surtout durant toute cette semaine, ils étaient réceptifs, ils étaient bien concentrés. On a demandé aux joueurs de ne pas penser trop au match aller, de ne pas s'emporter trop vers l'avant avec l'euphorie du public et tout. Je veux dire merci bien au président parce que il a eu le courage de donner une responsabilité à un staff technique jeune. Et je pense qu'on va savourer cette coupe pendant cette année exceptionnelle, la centenaire, pendant beaucoup d'années vers l'avant.
Le centenaire, ce sera au mois de janvier. C'est pas vous qui allez être contre ça. Faire confiance à une équipe jeune. Alors encore une fois, on le rappelle, il est arrivé il y a un mois. On peut pas dire que il mérite forcément. Il a fait tout le boulot. Enfin, il a été là au moment où il fallait.
Oui, exactement. Le plus important, c'est de gagner des titres. Et lui était là à ce moment-là. C'est un jeune entraîneur qui a trouvé les mots en fait, surtout après cette désillusion du match aller. Et ça montre qu'il a de l'emprise sur son groupe parce que c'est pas simple de se relever de ce qu'ils ont vécu à l'aller, de cette injustice. Donc il a fait du très très bon travail, c'est quelque chose qui peut se lancer hein, pour cette équipe de l'Espérance avec cet entraîneur. Ensuite il sera jugé comme les autres sur les résultats, c'est le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faut gagner lorsque vous êtes dans ce type d'équipe. On l'a dit, c'était une surprise par rapport à ce match aller, mais ça reste aussi ambitieux comme club, on l'a vu, la pression populaire. Donc lui maintenant va avoir la pression de défendre ce titre, et ça c'est différent, parce que lorsque vous êtes l'outsider pour travailler, vous avez beaucoup plus de sérénité. Là aujourd'hui il va être regardé, il va être suivi, et la pression va s'augmenter sur ses épaules.
On a évoqué le cas Carteron avec donc ses soucis aujourd'hui. Peut-être qu'il va être remercié de son poste. On le verra dans les prochains jours, prochaines semaines. Pour Chabani, ça va être ça maintenant. Là, il est au plus haut. Au final, désormais, il va être effectivement, il va devoir défendre son titre désormais. Il y a la Coupe du Monde des clubs aussi qui arrivera dans quelques semaines. Aujourd'hui, l'Espérance ne peut pas se permettre d'être battu l'année du centenaire en plus. En tout cas, elle ne peut pas se permettre d'être battu très tôt dans cette compétition, dans les autres compétitions également. Chabani, c'est là où ça va devenir délicat pour lui.
21 trophées continentaux pour les Tunisiens. Les Égyptiens sont loin devant avec 32. Le rendez-vous, vous l'avez dit, ce sera en décembre aux Émirats Arabes Unis pour la Coupe du Monde des clubs. Il y aura le Real Madrid, il y aura Boca ou River. Ça, on en parlera demain. Réfé, coucou. Hein, on a décidé de faire ça demain. Bon, c'est pas grave. Comme il est pas loin en ce moment, on en profite. On fait ce qu'on veut. C'est tellement bien parti pour son club qu'il doit se friser les moustaches, là, le Réfé.
On dira pas lequel est le club. Hein.
En même temps, il peut pas se friser les cheveux. On espère qu'ils feront aussi bien que le TP Mazembe, le Raja de Casablanca. On le rappelle, finaliste en 2010 et en 2013. On rappelle aussi que l'équipe qui est devenue championne d'Afrique, elle est à 90% tunisienne. Il y a un Ivoirien, Fousseni Koulibaly, un Algérien, Youssef Belaïli. Tout le reste, ce sont des Tunisiens. Et ça, c'est
aussi... Franck Combe aussi.
Je parle du 11 de départ.
Il n'a pas joué la finale. Et c'est un joueur et un élément clé de cette équipe.
Et c'est un beau vainqueur, l'Espérance de Tunis. On les salue s'ils sont à l'écoute. On parle en Angleterre, on était en Angleterre donc, et la première ligue, 12e journée, un derby de Manchester qui vire à la leçon. Salim Baumgali, c'était hier en fin de journée. 3-1 pour City, qui éclabousse véritablement Manchester United. City supérieur en tout.
3-1, ça donne pas l'impression pour les personnes, les auditeurs qui n'ont pas regardé le match, ça donne pas forcément l'impression d'un écart colossal. Pourtant, l'écart, il y avait. Hein. Déjà, je rappelle, désormais 12 points après 12 journées, 12 points d'écart.
Entre les deux
Manchester. Après deux journées, c'est juste invraisemblable.
Et Manchester United hier, c'est un tir cadré, c'est le pénalty de Martial.
Exactement. C'est du jamais vu entre les deux clubs. Et puis hier, à part un quart d'heure où on a vu United se relever un petit peu en début de seconde période, avec le but justement marqué par Martial, l'entrée de Lukaku qui a apporté un petit peu de puissance hein, tout de même dans cette équipe, rien du tout à United. Alors certes, Paul Pogba était absent, les gens ont blessé lors de la rencontre précédente face à la Juve, mais l'absence de Pogba n'explique pas tout. Cette défense a été apathique. Alors vous allez me dire, c'est le jeu de City. De réussir à embêter les défenses adverses dans les petits espaces, et ils l'ont très bien fait. David Silva, Bernardo Silva, Agüero, tous ces joueurs sont là pour ça. Mais voir un tel écart quand en même temps vous avez des défenseurs comme Chris Smalling, je me tourne vers Habib, la position de défenseur, il la connaît, mais des Smalling, des Ashley Young, des Luke Shaw,
Lindelof.
À un moment donné, quand vous voyez cette défense-là, vous dites, ce sont pas des joueurs de Manchester United, ou ce sont peut-être leurs cousins extrêmement lointains, quoi. Mais non, ce peut pas être des joueurs de United. Eh bien, si ce sont des joueurs de United, c'est pour ça que United va si mal, au final.
On s'emballe pour la qualité du jeu de City, on se désole pour la qualité du jeu de Manchester United, cette saison en particulier.
Ah oui, mais ça, il y a plus de surprise sur le jeu mis en place par José Mourinho. Il y a eu le plus gros braquage, l'un des plus gros braquages du siècle contre la Juve, puisque c'est 86 minutes de néant. Et puis un coup de patte de Juan Mata et un but de, on va dire, contre son camp de la Juve sur une erreur de main de Szczęsny. Donc on a vu Mourinho faire le malin, la ramener, mais en même temps c'est lui, donc on va pas lui en vouloir.
C'est
pour
sa
ça.
Manière de voler la Par victoire contre, à ses joueurs. En même temps.
On se rend compte ensuite dans les grandes affiches lorsqu'il faut justement élever son niveau, et parce qu'il faut l'élever face à City, c'est une équipe formidable avec un entraîneur formidable. C'est vrai que ces dernières années il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais la façon dont il met sa patte sur une équipe, la façon dont joue Manchester City, c'est l'une des plus belles équipes d'Europe en termes de football. Lorsqu'on voit le but d'Agüero, ce petit 1-2 dans des petits espaces, la vitesse d'exécution, cette frappe en pleine lucarne, tout est magnifique dans ce que fait City. Ça ne veut pas dire que City va gagner tous les titres cette saison, mais ce qui est sûr, c'est que
ils en veulent au moins un. C'est la Ligue des Champions, celui-là quand même.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, partout où il passe, on se rappelle de son football. Et moi, je trouve que ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a très peu d'entraîneurs qui peuvent aujourd'hui prétendre arriver dans une équipe et poser leur patte et se dire que lorsqu'on ferme les yeux, on ouvre les yeux en 5 secondes, on sait que c'est une équipe de Guardiola.
Évidemment.
Alors encore une fois, il dépense 300 millions par an. Ça aide aussi.
Hervé Penaud est d'accord.
Ah ben 100% d'accord.
Toujours avec Habib Bey.
Ah ben toujours.
Non, toujours quand on dit du bien de Pep Guardiola.
Mais quand Pep, vous aimez le football, vous aimez Pep Guardiola. À un moment, c'est obligatoire. Ouais. Celui qui aime le foot et me dit « Oh bon, Guardiola, j'aime pas tellement
les trop de passes. » Un peu comme Federer au tennis. Quand on aime le tennis, on aime Federer.
C'est totalement absurde. Alors en revanche, évidemment, il y a ceux qui sont obsédés par le résultat à tout prix. Et là, vous dites, Mourinho, lui, il a l'obsession du résultat. Ce qu'il veut faire, c'est faire déjouer l'adversaire. Il cherche pas à jouer, il cherche à faire déjouer. Malheureusement, en ce moment, on a l'impression que son discours a beaucoup plus de mal à passer. Parce que c'est vrai que faire des efforts défensifs de manière permanente, les joueurs, au bout d'un moment, ils sont lassés. Parce que vous avez quand même de sacrés joueurs. Parce que tu parlais effectivement de la défense. Mais un Smalling, il y a quelques années, on considérait que c'était un des grands espoirs du foot anglais. Vous avez un Valencia, c'est pas un mauvais joueur, Valencia. En plus, c'est lui qui l'a descendu côté droit alors qu'il jouait plus haut avant. Vous avez quand même des joueurs de bon niveau. Bailly est remplaçant, mais Bailly, quand il était en Espagne, il est très bon. Quand il a débuté à Manchester United, il est très bon. Donc il y a quand même des bons joueurs. Mais à un moment, ils sont tellement dans un style restrictif, et ben, ils n'en peuvent plus aussi. À un moment, vous êtes fatigué, usé. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça passe de moins en moins, cette manière de faire, quand on voit tous les entraîneurs qui arrivent et qui, au contraire, une mise en place tactique qui est très offensive, qui donne un peu, qui fait plaisir aux joueurs. Et quand vous êtes avec Guardiola, c'est immense. Alors, après, gagner la Ligue des Champions ou pas, vous savez, gagner une Ligue des Champions, des fois, c'est pas la meilleure équipe qui gagne.
Non,
il faut aussi un peu de chance, un peu de.
Il faut une part de réussite.
Depuis 3 ans, c'est le Real. Donc, toutes les autres équipes, en fait, peuvent dire aujourd'hui.
Et sans être le meilleur.
Ils se sont trompés. Donc, c'est la problématique. Je trouve que, par exemple, la conférence de presse, tu l'as dû la suivre de José Mourinho. On lui pose une question, bon, en quelque sorte, sur le jeu de son équipe. Sa première réponse, c'est de dire, Pogba nous a manqué. Non, on t'a demandé d'analyser le jeu de ton équipe. Les absents, aujourd'hui, bon, c'est pas Pogba qui aurait, en quelque sorte, sûrement amélioré Manchester United, mais pas changé le fil de ce match.
Et pour tout vous dire, avec Laurent Salerno et David Finzel, on a écouté cet extrait d'interview, on a hésité à le passer, on a dit non, parce que justement, on voulait pas amener ce débat sur Pogba, pas Pogba, c'est trop facile.
Oui, non, parce que, oui, forcément, le fait que Pogba soit pas là, forcément, c'est un manque, on va pas le nier. Mais.
Enfin, c'est pas Messi non plus.
Il était là contre la Juve, il a pas été bon du tout, et Manchester United l'a emporté.
Et à un moment donné, même s'il était présent, l'écart était tel, hier, que même avec Pogba, même avec d'autres joueurs, United n'aurait pas pu gagner. Le problème, c'est que, peut-être que notre vision, et ma vision, je vais le reconnaître
aussi. Surtout la tienne.
Exactement, a été en partie faussée ces dernières semaines, parce que United, en tout cas, avait une capacité de réaction importante.
Tout à fait.
Sur les quatre dernières rencontres de Premier League, à chaque fois menée, à chaque fois, le retour et au final, même une victoire aussi. Après, il y a eu un bon nul face à Chelsea, il y a eu une victoire face à Newcastle en étant mené 2-0, quand même. En étant mené 2-0, vous réussissez à gagner 3-2, avec des joueurs surtout, qui étaient, normalement, mis de côté, des Alexis Sanchez, des Anthony Martial. Donc on se dit, ces joueurs-là, ils ont quand même envie de montrer que eux au moins ils sont là, non pas qu'ils se battent pour Mourinho, mais au moins qu'ils se battent pour le maillot, qu'ils se battent pour eux quoi. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est bien beau de vouloir faire ça, mais il y a à un moment donné la qualité, tout simplement, et la qualité collective. Et la qualité collective, elle est pas là. Vous avez des individualités, vous n'avez aucun collectif.
8ème à 12 points, hein, vous l'avez dit. On rappelle le classement.
Il y a de la matière. Je pense que tu donnes cette équipe à Pep Guardiola.
C'est ça.
Elle joue complètement.
Mais bien sûr. Mais je rajoute ça. Vous avez des Matic au milieu de terrain. Matic, c'est pas un nul à la base. Il est exceptionnel comme joueur. Et Andereira, Rashford. Vous avez évidemment du potentiel,
même Lingard, même Martial,
mais collectivement, ça fait plus d'un an que ça marche pas. Ouais,
Vous avez dit quelque chose de très juste. Ils sont dans un football restrictif.
Mais c'est ça.
Et c'est le vrai problème. Lorsque vous avez des joueurs créatifs que vous mettez dans un système, dans une animation restrictive, forcément, vous tirez pas le potentiel de votre groupe. Il faut savoir identifier vos forces. Et qu'aujourd'hui, lorsque je vois Anthony Martial, par exemple, contre la Juve, qui est collé à Luke Shaw pendant 80 minutes à défendre, justement, sur les joueurs offensifs de la Juve, je me dis, bon, le match d'Anthony Martial, je l'ai vu dans son langage du corps, ça lui plaît pas. Alors à la fin, oui, il gagne. Alors, il fait le fanfaron parce que il bat la Juventus de Turin qui n'avait pas perdu depuis chez elle depuis 2003, je crois, ou une défaite depuis 2003. Donc il a raison de faire le fanfaron puisqu'encore une fois, c'est le résultat qui prime. Mais ce résultat-là, on sait et on en est sûr qu'il sera identifiable que sur un coup. C'est-à-dire, vous pouvez pas jouer comme ça pendant une saison entière et gagner 38 matchs. C'est-à-dire, vous allez en gagner un de temps en temps, mais Allegri était pas bête. À la fin, il a dit ce genre de match, on va le rejouer 10 fois.
Évidemment.
On le gagnera 10 fois. C'est un accident. Il est difficile à expliquer. Mourinho, aujourd'hui, je pense qu'il se rend compte que son équipe n'est pas forcément efficiente.
Ça sent la due sur Ibilis.
Oui, le problème, c'est que les joueurs, ils se parlent, vous savez. Ils se parlent pas qu'entre équipiers. Ils se parlent entre joueurs. Et donc, quand les gars de Manchester, ils regardent les gars de Manchester City, United regarde les gars de Manchester City, quand ils se parlent, ils disent, quand même, t'as du bol. Tu joues dans un jeu où ça donne envie de jouer au football. À un moment, quand vous êtes tout le temps, contraint de rester près de votre ligne de but, parce que hier, c'est quand même ce qui s'est passé. À un moment, il a descendu tout le bloc très bas dès le départ. Il n'y avait pas de jeu. C'est-à-dire qu'on dit aux joueurs, mais tant, faut pas que ça cède. Mais dès que ça commence à céder, mentalement, ça vous touche. Au départ, quand vous résistez, alors c'est l'histoire de la Juve, vous gagnez, au final, vous êtes content, vous dites, ah, finalement, on a fait les efforts pour. Mais moi, je vois qu'un seul joueur, un seul entraîneur aujourd'hui, qui arrive à tirer la quintessence dans un jeu un peu restrictif. Mais attention, pas tant que ça, et à un moment, il a légèrement évolué, c'est Simeone, avec l'Atlético Madrid.
Bah oui.
Où finalement, les joueurs, on disait au bout d'un an, deux ans, ils vont être rincés, ils vont arrêter de faire les efforts. Ça fait quoi? 5 ans qu'il est là-bas, quelque chose comme ça. Bah, les gars font toujours les mêmes efforts.
Mais parce qu'ils gagnent.
Parce qu'il gagne.
Parce qu'il gagne et qu'il va très très loin en Ligue des Champions. Donc si demain tu fais des efforts et que t'as des, en quelque sorte, tu vas très loin dans une compétition, que t'es à la lutte pour le titre aussi jusqu'au bout.
T'as de la constance.
Et voilà. Mais et les joueurs te disent, bon, ça vaut le coup qu'on se batte.
Mourinho, il trouve pas pour l'instant les ressorts. Et puis vous avez d'attaquer les joueurs de manière permanente en conférence de presse. Parce qu'en gros, il arrête pas de planter les mecs. Chaque fois, il dit, bah, tiens, lui, il est pas si bon. Martial, il vous a sauvé la dernière fois. Enfin, Martial, c'est vrai que, mais enfin, il a compris qu'il fallait être un peu plus intelligent. Il faut jouer au football. Donc au bout d'un moment, quand les seuls responsables, ce sont les autres, quand vous parlez de jeu, effectivement, à la fin du match, et la responsabilité elle est plus sur le jeu mais sur l'absence de Pogba, et ben, d'une certaine manière vous dédouanez de manière permanente.
Non, mais c'est le personnage, on l'a dit, mercredi il gagne.
Moi, j'aime bien, au départ,
il gagne à Turin, là, et il fait le cinéma pour que les projecteurs se braquent sur lui, en quelque sorte faire le buzz lui, Mourinho, et s'attirer donc toute la gloire. Et puis quand ça perd, bah il désingue les joueurs.
Le souci effectivement à Nusser Obilis, parce que ce soit en championnat, donc il y a un tel écart aujourd'hui avec City, même avec le Big Four, en termes de jeu, pas forcément en termes de points avec le quatrième, mais en termes de jeu, Tottenham, même Arsenal est meilleur, même si Arsenal est un petit peu moins constant ces derniers temps, mais Liverpool, Chelsea évidemment au-dessus. Et puis en Ligue des Champions, il y a eu un coup à Turin, très bien, mais on sait que ça va pas se répéter était en huitième ou en quart, ça ne se répétera pas. Donc, pour que Mourinho puisse obtenir un titre, ça va être très compliqué, en fait.
Et l'effectif, c'est l'effectif de Mourinho.
Bien sûr,
beaucoup de joueurs. Il a mis une blinde.
Et encore, il y a des joueurs qui préfèrent mettre sur le banc. Ouais. D'ailleurs, Eric Bailly, c'est le meilleur exemple, d'ailleurs.
Exactement.
Alors, au classement, ça nous donne quoi? Parce que la question maintenant, c'est Manchester City joue tellement bien. Manchester City est bien parti pour se succéder à lui-même. On en est qu'au tiers du championnat. Ouais. Hein, c'est ça, c'était la 12e journée. Un tout petit peu moins du tiers du championnat. Liverpool est à 2 points. Liverpool a gagné à Fulham hier. Enfin, beaucoup de gens gagnaient à Fulham cette saison, le promu. Est-ce que c'est le seul chasseur? On rappelle Chelsea qui a fait 0-0 face à Everton est à 4 points. Liverpool, il peut y avoir quelque chose?
Donc 2 points d'écart. Et il y aura prochainement, hein, faut-il le rappeler, un Manchester City-Liverpool. Ce sera le 3 janvier. Et ça, sera sans doute un élément
toujours
clé.
Toujours remis, hein, du réveillon. Hein, ça.
Exactement.
C'est bien qu'il fasse ça le 3.
En sachant quand même qu'il joue évidemment 26, 28, 30. 30, pardon, premier et 3. Voilà.
Donc c'est pour ça que vous avez amené votre femme, c'est pour la prévenir que les fesses.
Exactement, elle ne peut pas lui dire à l'antenne. Voilà, comme voilà, ça, elle le sait.
Elle a bien noté.
C'est ça. Non, mais c'est vrai que Liverpool. Alors, Liverpool a galéré quand même, hein, hier face à Fulham. Certes, victoire 2-0, mais Fulham a eu beaucoup d'opportunités avec André-Jean Mouyitsa, qui a été bon d'ailleurs, hein, dans cette partie. Jean-Michel Seri était remplaçant pour ce match. Avec Mohamed Salah qui a marqué un but incroyable, hein. Il y a un but pour Fulham. L'arbitre le refuse pour un hors-jeu qui est extrêmement limite. 13 secondes après, la balle passe sa ligne de l'autre côté avec Mohamed Salah qui frappe. Et Liverpool était en difficulté, mais au final, Liverpool, c'est une équipe qui en plus a un banc important, donc Liverpool peut faire tourner, contrairement à Chelsea, qui a un banc moindre, les autres équipes également.
Mais Chelsea joue l'Europa League.
Il y a plein de paramètres
cette saison qui, pour moi, vont être ce que disait d'ailleurs Alex Ferguson, c'est-à-dire que tu ne gagnes pas la première ligue pendant le Boxing Day, mais tu peux la perdre.
Tout à fait.
Et cette période du Boxing Day, pour toutes ces équipes qui sont engagés en Ligue des Champions. On ne sait pas si Tottenham va sortir de la Ligue des Champions. Évidemment. Il pourrait éventuellement sortir de la Ligue des Champions et du coup avoir un petit peu plus de fraîcheur pour le championnat. City sera forcément en huitième. On sait que Liverpool est également en ballotage, pour l'instant favorable, mais va quand même aller à Paris et en cas de défaite pourrait être en ballotage.
Et recevoir Naples.
Très défavorable ensuite pour la suite de la compétition. Donc je pense que le Boxing Day et les paramètres de la Ligue des Champions vont peut-être aussi niveler les forces en présence, même si on voit que ces équipes se tiennent à quelques points. Je vois pas forcément City, oui en termes de jeu, mais sur la globalité de ce qu'ils font depuis le début du championnat, Liverpool n'est pas loin, Chelsea fait du bon travail également avec Sarri, donc ça va être très très serré la première ligue cette saison, je pense.
Juste je me permets de compléter le propos par rapport aux journées de fin d'année, donc c'est cette fameuse période du Boxing Day. Je rappelle, le Boxing Day c'est que le 26 décembre, hein, on va essayer de bien le dire.
On rappelle la tradition qui était d'offrir des boîtes aux pauvres, et
tout
voilà,
à fait.
Le Boxing Day c'est le 26 décembre.
Oui, mais c'est pas malgré tout, on y associe tous les matchs.
C'est la période du Boxing Day. Vous aurez votre boîte.
Non, j'ai eu la chance de jouer des Boxing Day, c'est passionnant pour un joueur de foot et c'est passionnant pour les supporters qui viennent au stade. Parce que c'est une ambiance complètement différente. Les enfants sont là, alors que d'habitude c'est moins le cas. C'est vraiment exceptionnel.
Bah, digérer la date au marron, c'est plus facile.
Juste par rapport au calendrier, quand même, Liverpool aura 2 chocs à jouer en 3 jours. Là où City n'aura que le City Liverpool, Liverpool devra affronter City et 3 jours avant affronter Arsenal. Ça peut compter dans les jambes. Le fameux propos, on peut perdre pendant cette période-là, c'est totalement le cas. Pour
Chelsea 0-0 face à Everton avec un N'Golo Kanté fatigué qui s'est raté pour une fois. Ça c'est pas un bon signe en l'équipe de France. En même temps, faut peut-être qu'il souffle, petit N'Golo. Là, il arrête pas. Ce garçon, il a le droit de se reposer.
Non, mais à un moment, c'est le problème du football aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 joueurs qui ont eu un tel niveau de performance pendant des années qu'on a l'impression qu'on peut plus avoir des moments de moins bien. Tout le temps avant, vous aviez des joueurs, vous étiez bon 10 matchs, 2-3 matchs un peu moins bons, ça repartait. Mais avec Messi, Ronaldo. Messi, le jour où il marquait pas, on disait, oh là, il a un problème, alors qu'il marquait quasiment tous les matchs, et Ronaldo de la même manière. Donc, à un moment, c'est un être humain. Voilà, c'est un être humain, un footballeur humain. Quand vous êtes champion du monde, parce que c'est l'un des rares champions du monde à être à un tel niveau de performance encore. Donc, il est bon quasiment.
Et dans une animation différente.
Et en plus, c'est un peu plus haut.
Ça, c'est différent.
Il est maintenant
plus relayeur qu'il n'était devant la défense.
Mais il a joué à tous les postes, quand même, même à Chelsea et même à Leicester.
Et juste, je précise, s'il a été moins bon hier, c'est un fait, c'est parce qu'en face, il y avait un exceptionnel Idrissa Gueye.
Mais comme d'habitude,
avec le l'équipe d'Everton, il y a d'ailleurs Everton qui va de mieux en mieux. Et Idrissa Gueye au milieu de terrain a été très bon.
Mais il faut le dire, puisque nos auditeurs nous écoutent, Idrissa Gueye est un grand joueur.
C'est un joueur.
Moi, je me souviens au Paris Saint-Germain, j'avais discuté avec des dirigeants, mais je dis, je comprends même pas pourquoi vous essayez pas de recruter Idrissa Gueye à l'époque où il était à Lille.
Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un cliché. Mais Idrissa Gueye est international sénégalais. S'il était international brésilien ou français, aujourd'hui, il aurait une cote beaucoup plus importante. C'est pas un cliché que je dis, c'est pas forcément. Mais on sait que c'est comme ça. Aujourd'hui, l'année dernière, il faut se rappeler qu'il avait tant de stats que N'Golo Kanté en termes de récupération. Je crois qu'il était même devant au nombre de tacles réussis au milieu de terrain. Il avait des stats incroyables en Première Ligue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas été approché par les plus grandes écuries européennes.
Il a signé, je pense qu'ils ont
encore une fois, je pense que Everton paye très très bien, offre des contrats de qualité et lui s'y sent bien. Donc heureusement, il continue, mais c'est vrai qu'il a le potentiel pour jouer beaucoup plus haut.
Et l'ancien entraîneur de Croatie, à l'époque, m'avait dit, mais regardez les stats, comment il s'appelle l'ancien Bilic, excusez-moi, Slaven Bilic, il m'avait dit, mais regarde les stats de Gay et regarde N'Golo Kanté, c'est pareil. Alors bon, il y a peut-être un petit peu plus pour N'Golo Kanté sur ces dernières saisons, mais parce que Gay doit faire un petit peu plus lui-même, être un peu plus présent dans le but.
Moi, ce que je retiens, c'est que Slaven Bilic donc tutoie Hervé Penaud.
J'ai pas pu traduire le you.
Salim va peut-être
pas
nous dire vous. Tu... Samir Nasri à West Ham, peut-être.
On va pas en parler, on va passer à autre chose.
C'est son club à West Ham, on le rappelle. Quatrième, à 5 points de Manchester City, on déroule notre classement. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui se tiennent, hein, on l'a dit. Liverpool à 2 points, Chelsea à 4, à 5 points. Tottenham qui est allé battre, qui a gagné chez lui 1-0 face à Crystal. Donc a gagné à Crystal Palace.
À Palace, oui, c'est ça. Le but du petit jeune Juan Foyth, le défenseur argentin, qui la semaine passée était observé, vous savez, c'est un petit jeune qui a été sélectionné d'ailleurs en équipe d'Argentine. La semaine d'avant, pour son premier match de sa carrière en PL, il a causé 2 pénaltys. Et Tottenham avait certes gagné 3-2, mais bon, on se dit premier match de pénalty, il va plus rejouer. Le match d'après, il joue, son équipe ne concède pas de but, il marque en plus sur corner. Royal pour lui à 20 ans.
Bonne gestion de Pochettino.
Tottenham, on a quand même toujours l'impression que c'est la même chose. Hein. Ils sont quatrième, bon, ils seront au mieux troisième ou deuxième, ou au pire cinquième.
Ils sont deuxième, c'est bien.
Oui.
Ah, là, si tu dis au pire, ils seront au pire deuxième.
Ah, bah, c'est quoi si le but du jeu, c'est pas d'être premier.
Eux, ce qu'ils veulent, c'est être en Ligue des Champions déjà, parce que je vous rappelle qu'ils sont en train de payer un stade qui coûtait extrêmement cher, qui n'arrive pas pour l'instant à ouvrir.
Je rappelle que Leicester a été champion, mon cher Hervé, donc pourquoi pas rêver.
Ils achètent aucun joueur, faut pas l'oublier.
Ils sont Kane dépendants.
Ah oui, c'est
ça. Si Harry Kane va bien, Tottenham va bien. S'il va moins bien.
Et même
Dele
Alli,
hein,
qui est un peu
Dele Alli, même d'autres joueurs, Christian Eriksen même qui est un ton en dessous aussi. Et puis leur souci de stade, ils jouent toujours à Wembley. D'ailleurs, la capacité désormais va être réduite à Wembley. Ils vont avoir moins d'entrées billetterie désormais, et ils sont obligés d'attendre le nouveau stade qui peut-être sera ouvert début janvier. Ce n'est pas sûr. Sinon, ce sera encore repoussé.
Cinquième à 8 longueurs de City. On arrêtera là-dessus. Arsenal tenu en échec à domicile par Wolverhampton. Ouais. Il y avait eu toute une série de très bons matchs et plein de victoires. Alors on faisait la fine bouche. Contre des équipes de second rang, puis tout d'un coup ça s'enraye.
Mais c'est pas le même calibre. On l'avait dit, même si on avait dit qu'Arsenal était bien avec Unai Emery, que c'était un entraîneur qui commençait à mettre sa patte sur son équipe, on sent malgré tout en termes d'effectifs qu'ils sont en dessous des 4. Ils ont quelques jeunes joueurs. Là, quand on voit l'action où ce ballon en profondeur du gardien et on a le défenseur qui a 3 mètres d'avance et qui se retrouve à la fin avec 3 mètres de retard, voilà, c'est exactement ça. Ça montre Arsenal a quand même des lacunes sur certains postes. On a vu des jeunes joueurs et c'est pas suffisant pour batailler avec les City et compagnie.
Deux choses, Arsenal donc reste sur 4 nuls de rang quand même, désormais après 11 victoires de rang. Alors parmi ces matchs, il y avait eu un beau résultat face à Liverpool quand même, hein. Il y avait eu du jeu dans cette rencontre aussi. Habib l'a très bien dit, notamment défensivement, c'est là où c'est quand même inquiétant et on le voit d'ailleurs même à travers les victoires. On se pose toujours des questions par rapport au banc notamment, parce que quand les joueurs sont blessés, ceux qui les remplacent sont pas forcément exceptionnels. Et puis hier, Arsenal ne doit jamais faire match nul. Il doit avoir large victoire de Wolverhampton. Adama Traoré, l'Espagnol d'origine malienne, qui a été brillantissime hier. Wolverhampton doit gagner 2, 3, 4-1 sans problème. C'est Bernd Leno, là au final c'est une très bonne recrue, le gardien allemand qui a été brillantissime. Sans lui, Arsenal perd, c'est sûr.
Mais à un moment, faut regarder, vous savez, il faut quand même être logique. Vous avez l'effectif de Manchester City. Vous avez l'effectif même de Manchester United, qui est derrière pourtant. Vous avez Liverpool, vous avez même Tottenham. Mais c'est largement meilleur qu'Arsenal. Arsenal, c'est en dessous. S'ils arrivent à faire 4 ou 5... C'est déjà 4, ce serait vraiment bien pour eux. S'ils arrivent à réintégrer le Big Four, ce serait vraiment énorme. S'ils font 5, vous savez, il faut qu'ils mettent son travail en place, le père Emery, et pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal dans le jeu. J'ai peur qu'ils aient une période un peu moins bien d'ici.
Offensivement, c'est vraiment bien. Et ça continue à tourner, il n'y a pas de souci.
Avec un très bon Lacazette, hein, d'ailleurs. Et
totalement.
Un très bon Aubameyang.
Exactement. Mais défensivement, c'est vraiment là
en équipe de France, qui profite en quelque sorte de la blessure de Martial, qui était rappelé. Finalement, c'est lui qui ira.
Ce qui prouve d'ailleurs que Deschamps avait rien contre Lacazette en tant que tel, puisque j'ai lu tellement de choses. Il avait une hiérarchie terminée.
C'est pas que je veux casser l'ambiance, mais si, quand même. Samedi, il y a eu ça aussi.
Pilot, Eric Swafer, Kawi Pong Pumper, Nusala Suknamai, and Leicester City Chairman, Mr. Wee Chai Si Watanapapa.
C'était le premier match de Leicester à Leicester. C'était au King Power Stadium, deux semaines après le drame, l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 5 personnes et notamment au président du club. 0-0 face à Burnley. Leicester est 10e, mais l'essentiel était ailleurs. Il y a eu encore une tellement belle émotion. Ces gens-là savent vraiment c'est faire ça.
C'est ça. C'est vrai que le 0-0 est évidemment futile dans cette histoire. C'était un week-end particulier, forcément, week-end du 11 novembre. Donc, des minutes de silence, il y en a eu partout par rapport déjà à ces commémorations du 11 novembre. Minutes de silence à ce sujet. Et donc, à Leicester, évidemment, avec cet accident d'hélicoptère. Et c'est vrai qu'en Angleterre, comme peut-être nulle part ailleurs dans le monde, on sait respecter, on sait faire des minutes de silence qui sont émouvantes. Vous savez, vous entendez vraiment rien. Je lisais quelques tweets qui disaient « Ah, je suis arrivé sur le match, je pensais que j'avais laissé mon son sur zéro. » Non, le son était bien allumé, sauf que il n'y avait pas un bruit. Un tel respect, et surtout l'hommage autour de ce match et autour des victimes de cet accident hélicoptère. Avant le match, tous les joueurs qui déposent un maillot avec un message écrit à l'attention du propriétaire, les supporters autour du stade, enfin... Une émotion telle que le match, on l'a évidemment très vite évacué. Et même après le match encore, le fils du propriétaire qui fait le tour du stade avec les larmes en remerciant les supporters. Enfin, tout ça fait que ça marquera à coup sûr l'histoire de la PL.
Une pensée pour Claude Puel et son adjoint que l'on connaît bien ici, Jackie Bonnevet. Et on passe à autre chose. À Dortmund, on n'a pas le speaker tout à fait de Naples, mais il essaye de lui ressembler. Paco Alcácer, c'était le troisième but de Dortmund dans ce match de dingo encore. Colossal football hein, en Allemagne, comme on dit. Samedi, on s'est régalé, 11e journée. Dortmund-Bayern, un match de Ligue des Champions, hein, véritablement. On est passé de 1-2, 2-1 pour le Bayern, à 3-2 pour Dortmund. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le coup de fil à un ami. C'est comme dans une certaine émission de jeu. Allô,
il
David,
y a l'argent à gagner aussi.
L'Ortolari. Vous êtes là, David?
Salut Olivier.
Oh, quelle belle voix, une belle voix.
Et David, c'est quoi ce truc de dingue la samedi?
Il a une voix d'homme de télé.
Ah oui, non mais absolument. C'était vraiment le sommet du week-end. Tous les ingrédients y étaient, avec la dynamique d'un côté pour Dortmund et la mini-crise, tous les soucis que peut rencontrer actuellement le Bayern, avec en plus derrière, en toile de fond, les 6 titres consécutifs du Bayern qui font que, évidemment, à Dortmund, il y avait une espèce d'euphorie qui avait besoin d'éclater dans les tribunes et sur le terrain. Et ça s'est vu, il y avait tous les ingrédients. En plus, Olivier, il faut bien le dire, il faut être objectif au maximum. Ce Bayern ne carbure pas en ce moment, mais il a quand même pris les choses par le bon bout samedi. Il a fait une très belle première mi-temps. Il a mis en danger le leader de la Bundesliga et il a mené deux fois au score. Vraiment, Dortmund, en ce moment, a beaucoup, beaucoup de réussite. Son entraîneur aussi. On appelle ça « Goldenen Händchen » en Allemagne. C'est l'entraîneur aux mains d'or parce que tout ce qu'il fait réussit. Vous parliez de Paco Alcácer à l'instant. Il n'était pas titulaire. Il entre. Il marque le but décisif, j'allais dire presque létal, le but qui fait la différence et qui permet à Dortmund de s'imposer. Et en plus, et j'en terminerai par là, ce propos forcément un peu long, il y a eu le 3-3 de Lewandowski à la 95e, qui a été un but magnifique d'une madjère, d'une talonnade que nos consultants auront apprécié. Et qui a été refusé pour un léger hors-jeu. Donc tous les ingrédients y étaient vraiment pour ce match samedi.
Bah, pour corroborer les propos de David L'Ortolari, il faut corroborer. Hein. Je vous propose d'écouter l'avis d'un gars qui passait par là, Lucien Favre.
Le Bayern ne pouvait pas rester sur un tel rythme durant toute la rencontre. Ils ont vraiment commencé très fort, un engagement total. Ils gagnaient beaucoup de duels, Franck Ribéry était fou dans un sens positif, très fort aussi pour gratter les ballons. Ils ne pouvaient pas maintenir cette cadence. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle, en seconde période, nous avons été bien meilleurs. Et puis nous avons changé quelques petites choses et bien mieux joué. Ça a vraiment été un match fou. C'est une super pub pour la Bundesliga.
Voilà pour Lucien Favre. Finalement, il est d'accord avec l'Ortolari, on le note. Ça prouve qu'on a bien fait de lui dire de venir.
C'est peut-être l'inverse, en fait.
8 victoires, 3 nuls, 0 défaite quand même. Et on rappelle, comme ça, en passant en Ligue des Champions, une victoire 4-0 sur l'Atlético Madrid. Ouais. Lucien Favre, c'est quand même le bonhomme du moment sur le banc.
C'est surtout que c'est l'un des plus beaux footballs d'Europe vers l'avant, aujourd'hui. lorsqu'on regarde Dortmund depuis le début de saison, à l'image de ce 4-0 contre l'Atlético, où même si le score n'était pas forcément en rapport avec la physionomie du match, mais c'est une équipe lorsqu'elle va vers l'avant qui est incroyable. Hier, par exemple, alors même si c'est, on l'a dit, le Bayern Munich est en difficulté, le but de Paco Alcácer, ça va très très vite vers l'avant. Je crois qu'il y a un homme clé dans ce nouveau Dortmund, c'est le renouveau de Marco Reus qui ne se blesse pas.
Oui.
Parce que ce joueur-là est un joueur extraordinaire. Tout le monde l'a dit. Depuis 5 ans, 6 ans, tout le monde dit que c'est sûrement l'un des meilleurs joueurs d'Allemagne, de par sa qualité technique, de par ce pied droit fantastique. Sauf que chaque année, et même pour les grandes compétitions, David le disait, sur les grandes compétitions, il a toujours été blessé. Il s'est blessé avant la compétition, souvent à la cheville. Aujourd'hui, il est en pleine possession de ses moyens. Et c'est ce qui fait aussi la différence dans cet effectif. C'est un joueur formidable. Je crois que Dortmund, en termes de vitesse, en termes de jeu vers l'avant, on a l'impression de revoir le Dortmund de Jürgen Klopp à ses grands moments, parce que ça allait très très vite, il y avait de la qualité technique. C'est magnifique de voir enfin des grands sommets, surtout en Bundesliga, parce qu'on avait perdu un petit peu ça avec l'hégémonie du Bayern Munich.
Et dans un tel stade, avec une telle ambiance Hervé.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, alors c'est ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de se rendre compte, c'est pas parce que vous avez une grande équipe et à première vue les meilleurs joueurs du pays que vous gagnez tous vos matchs. C'est juste un mot comme ça pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'on peut faire tomber une équipe qui semble invincible. Parce que sur le papier, attention, c'est du lourd. Alors quand vous regardez l'équipe de Dortmund, celle là où c'est assez drôle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Ça doit être l'une des équipes les plus jeunes d'Europe. C'est-à-dire, vous avez des joueurs qui ont 20, 21 ans, 22 ans, et ils se sont mis tout de suite dans le moule. Et c'est là où c'est quand même très important d'avoir des Marco Reus ou des joueurs comme ça. Parce que vous pouvez être bon aussi, il faut être bien entouré. Bien entouré par des cadres, et bien entouré par des cadres qui fonctionnent. Parce que vous pouvez avoir des cadres, mais qui sont un peu aussi eux-mêmes en difficulté, et ça devient plus compliqué. Et vous avez des joueurs incroyables, hein. Des performances, même des jeunes français qui jouent derrière, là. Alors, Diallo, par exemple, vous Zagadou. Alors, Diallo était pas là, mais vous prenez, Diallo, qui a failli venir aussi à Lyon. Il hésitait entre Lyon et Dortmund. Finalement, il est à Dortmund.
Il est peut-être pas mal choisi.
On peut comprendre pourquoi. Il
est clairvoyant déjà.
Achraf Hakimi, par exemple, prêté par le Real Madrid, est un super latéral qui est normalement était un latéral droit. Même si, par exemple, en équipe du Maroc, il joue à gauche, puisque c'est Dirar qui joue à droite, et que même, je me demande s'il le préfère pas à gauche. Et maintenant, il est l'arrière gauche de l'équipe Dortmund. Depuis qu'il est devenu titulaire il y a quelques matchs, il est énormissime.
Oui, ils ont bien recruté. Hein. Witzel, par exemple, qui a fait une très bonne Coupe du Monde avec la Belgique.
Qui arrive de Chine, tiens, voilà quelqu'un qui me fait mentir. Comment on peut aller en Chine et revenir.
Il a fait une très bonne Coupe du Monde, donc je pense qu'elle était aussi un indicateur important pour Dortmund lorsqu'ils l'ont recruté.
C'est typique du joueur important pour encadrer des jeunes.
Salim. Hervé disait Hakimi prêté par le Real, Paco Alcácer prêté par le Barça. Le Barça n'y croyait pas du tout à ce joueur. Il a préféré le passer tranquillement à Dortmund en disant bon, il va jouer un peu, etc. Il cadre tellement peu, mais il marque, il a un ratio incroyable en fait. Il ne rate quasiment jamais sa cible. Ça, c'est l'une des recrues invraisemblables.
8 buts en 6 matchs, vous nous dites pour Alcácer.
Oui, 8 buts en 218 minutes, Olivier. C'est un but toutes les 27 minutes. C'est totalement incroyable.
Ah oui, c'est incroyable.
Mais il n'est pas titulaire.
La question qui suit, c'est une machine à être champion cette année Dortmund.
Les supporters y croient dur comme fer et cette euphorie qu'il y a eu à la fin du match évidemment était évidente.
Bon, et toi David, t'y crois?
on est au tiers de la saison. Il y a des petites choses, des petites scènes. La chance du champion, on a parlé de cette scène de légalisation qui n'a pas été validée et à juste titre. Il y a eu aussi un arbitrage certainement pas scandaleux mais plutôt favorable à Dortmund dans ce match-là. C'est des petites choses qui servent cette équipe. Attention, on est à la 11e journée, il y a des adversaires autres qu'on n'a pas forcément vu arriver aussi comme Mönchengladbach par exemple ou l'Eintracht Francfort. Et puis le Bayern, même si on fait profil bas et le président Hoeneß a dit ça serait normal que quelqu'un d'autre soit champion que nous de temps en temps. Croyez-moi qu'au Bayern, on va se débrouiller pour réagir, pour modifier des choses, pour prendre des mesures, peut-être déjà intervenir dès le mercato d'hiver aussi, pour essayer de revenir et de remonter ces 7 points. Sachez que bien sûr, par définition, il reste un match retour à Munich, et que donc ces 7 points restent encore un trompe-l'œil.
Le Bayern, 5e à 7 points. Dortmund, on rappelle quand même, meilleure attaque, 33 buts, meilleure défense, 12 buts encaissés, ça fait plus 21. Quand on regarde Mönchengladbach, Leipzig et Francfort, qui sont 2e, 3e et 4e, respectivement, à 4, 5 et 7 points, on est à plus 13, quoi. Il y a une énorme... Il y a même déjà aussi un très net avantage à la différence de buts.
Et surtout, ce qui est inquiétant, David, c'est quand même qu'on n'a pas vu depuis maintenant une bonne dizaine d'années le Bayern Munich, 5e de Bundesliga. En général, ils ont toujours été... premier, peut-être deuxième, mais là cinquième, alors même si c'est serré, mais 7 points c'est quand même important quand tu as la forme de Dortmund. Tu as quand même ces deux équipes qui sont engagées en Ligue des Champions. Ça reste un petit fossé qui s'est créé, qui est préjudiciable pour le Bayern Munich au vu de leur qualité de jeu surtout.
Il y a beaucoup de soucis à régler au Bayern. Il y a le fait que l'entraîneur ne fait pas l'unanimité auprès de ses joueurs, le fait que certains ont encore la tête à la Coupe du Monde. Emmanuel Neuer l'a avoué récemment. Cette Coupe du Monde catastrophique pèse lourd dans les esprits de certains cadres. Des joueurs ne sont pas lucides non plus, comme Mats Hummels qui était malade ce week-end et qui a finalement s'est déclaré lui-même apte à jouer.
Il y a des joueurs qui giflent aussi.
Oui, Franck Ribéry s'est un peu emporté à l'issue du match avec le consultant ancien joueur de la Saint-Etienne, Patrick Guillou. Il a mis trois petites gifles au moment de monter dans le bus après le match parce que Guillou aurait dit quelque chose qui n'a pas plu au clan, à la famille de Ribéry.
Il est costaud, Guillou, attention.
Oui, en plus, il ne faut pas non plus monter cette affaire en épingle, mais ça témoigne évidemment, Olivier, ça témoigne évidemment d'une tension et du fait qu'on est un peu fébrile et qu'on n'a pas trouvé encore le bon cap clair à suivre au Bayern, et notamment aussi dans l'idée de jeu. Parce que c'est ça qui est frappant. Autant le Bayern s'est bien pris ce week-end sur le plan des duels, sur le plan physique, sur le plan de l'intensité à mettre dans le match, autant sur l'idée de jeu, on ne sait pas encore trop où on va, et c'est peut-être finalement le problème principal aussi.
Oui, et puis David, Thomas Müller, à un moment donné, il faut arrêter, non ?
Ah oui, enfin,
ça fait un moment.
J'ai adoré ce joueur, j'ai adoré son caractère et tout, mais aujourd'hui, ça quand même, depuis un moment, ça devient insuffisant, vraiment pour une équipe comme le Bayern Munich. Alors, je veux bien qu'il fasse preuve de générosité, qu'il soit un cadre à l'intérieur de ce vestiaire, que le Bayern Munich et les Allemands l'aiment bien parce que c'est quand même quelqu'un qui représente quelque chose pour le club. Mais parfois, il faut aussi arrêter et savoir dire stop, ou au moins se servir d'un joueur comme lui, plus comme un joker, comme un réel titulaire. Je crois que c'est combien de buts cette saison ? C'est 2 buts.
Mais qu'il soit chef de l'Oktoberfest, c'est très bien. Ça, il est très bon là-dedans.
Simplement, il y a quelque chose de très important. Les jeunes sont là, Gnabry. C'est l'un des plus virevoltants en ce moment, c'est le plus jeune sur le terrain. Kingsley Coman est blessé, Thiago Alcantara, qui est encore tout jeune, est blessé aussi, Corentin Tolisso est blessé. Donc on est vraiment au moment d'une transition, et pour l'instant, si les anciens continuent de jouer, c'est parfois aussi parce qu'il y a besoin d'eux, simplement, sur le plan de l'effectif. Cet effectif du Bayern, messieurs, le groupe est le plus restreint de toute la Bundesliga, il n'y a que 23 professionnels.
Ben on est content d'avoir passé le coup de fil à un ami, David Lortolari.
Non, attention, c'est on pas valide. C'est une connaissance.
Bah c'est le mien. Vous n'avez pas d'amis. D'accord, moi j'en ai. Merci beaucoup, monsieur Lortolari. Et bravo encore pour ce beau championnat et pour cet exceptionnel Dortmund. Bayern, il y est pour rien. On voit comme c'est l'homme de l'Allemagne.
C'est rien à dire, monsieur. La Premier League reste le plus grand des championnats quand même. On s'en mêle pas.
Allez, on passe à autre chose.
Johnson, open net. Drogba's there. Drogba again. Didier Drogba scores again. Refusing to end his career. Phoenix by 2.
Il a marqué le but, marqué le but. Drogba qui disait le maître. Tu restes là toujours la tête, toujours en tête. Merde, chez nous c'est la fête, 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 fête. Envoyez le ballon, il va mettre en tête, 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 tête. Merci, enfant de gagnant, ah merci. Tu resteras le meilleur même si tu arrêtes ta carrière, Mansi. Brrr, Drogba. T'as mis tous les
Jojo le barbu. Ben, s'il nous écoute, on lui dit salut. Jojo le barbu, c'est celui qui chante là cette chanson, cette hymne à Didier Drogba. Alors on voulait juste passer la dernière minute, vous demander votre avis, et poser la question à Hervé de la part de Madame Koulibaly de Trècheville. C'est fini ou pas? Il a marqué son dernier but à 40 ans en demi-finale de la D2. Il s'est qualifié pour la finale avec Phoenix. Alors le dernier but, c'était le 4 novembre. Et puis bon, ça s'est moins bien terminé ce week-end puisqu'ils ont perdu cette finale de deuxième division. Les joueurs de Phoenix arrêtera pas cette grande débat. Il a une telle patate quand on le voit dans le vestiaire à 40 ans.
Logiquement, il devrait arrêter. Mais comme il a fait un tweet énigmatique en disant je suis prêt pour ça. En gros, ça voulait dire je vais poursuivre. Mm-hmm. Son tweet, ça voulait dire je vais poursuivre. Moi, les infos qui me reviennent, c'est que c'est fini à Phoenix. Maintenant, avec lui,
tout est possible.
Moi, je me suis déjà trompé une fois là-dessus. J'avais dit qu'il arrêtait au moment où il était à Montréal parce qu'il voulait être l'adjoint d'Idink. Bon, wait and see. Mais logiquement, c'est fini.
Ce qu'il faut dire pour nos auditeurs et pour toute l'Afrique, c'est que ça a été un digne représentant de ce continent et c'est vraiment une légende en termes de football. Donc, quoi qu'il arrive, il restera dans la mémoire et il restera forcément dans un club de foot. C'est sûr. Vu l'amour qu'il a pour ce sport, j'ai pas de doute là-dessus.
Il ne s'éloignera pas du football. Suspense encore pendant quelques jours. Il va clarifier tout ça. Nous, on se retrouve dès demain, parce que on n'arrive pas à joindre la dame. On sait pas là, a priori. Il y en a pour la semaine parce qu'il y aura Christophe Jousset mercredi, moi encore jeudi. Enfin, c'est un truc de folie. Laurent Salerno et David Fitzel sont là. RFI Challenge.